Good Morning Market, le club de la bourse.
Le club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès de Dorette BGC. Bonjour, bonjour, à côté de vous, Alain Pitous. Bonjour, senior advisor pour Alfort Alpha. On va commencer avec Christine Lagarde et cette déclaration hier. Étienne Brack, bon, oui. la hausse des taux, c'est fini.
Oui, hier, elle a été auditionnée devant le Parlement européen. Alors, elle a été interrogée.
Vous voulez que je vous la passe?
Ah, bah,
vous voulez qu'on l'écoute?
Oui.
Alors, on l'écoute.
But we see. No evidence yet.
Nous ne voyons pas encore de signes d'un désancrage des anticipations d'inflation ni d'effet de second tour qui justifierait une réponse de politique monétaire plus énergique à ce stade. Nous avons la capacité d'ajuster notre réponse au fil de l'évolution du choc afin de garantir qu'elle reste proportionnée.
Étienne, il n'y aura pas de nouvelle hausse des taux.
Tout en disant qu'elle est data-dépendante, hein. Réunion par réunion, hein. Toujours les banquiers centraux qui sont très prudents, qui veulent pas trop se mouiller. Mais en tout cas, là, hier, elle a très clairement dit, et de toute façon, avec un baril de pétrole à $75, c'était compliqué de dire le contraire, que les pressions inflationnistes allaient un petit peu se calmer, qu'elle a ancré les anticipations d'inflation avec la hausse de taux, hein, qui a été annoncée il y a une dizaine de jours, et que à court terme, hein, je dis ces mots, il n'y a pas de raison d'avoir une réponse un peu plus énergique.
Alain Pitous, on a bien fait de faire 0,25.
Ah bah c'était une excellente idée, je pense. Blague à part, il y a un demi-tour assez rapide, puisqu'en fait, si elle est effectivement data dependent, elle voit aussi que l'économie européenne n'est pas en grande forme, que le chômage commence à monter, que il y a certains pays qui sont alors pas encore en grande difficulté, on n'est pas encore en récession, mais on tangente une récession, on tangente une hausse du chômage, qui va avoir des effets sur la dette, enfin sur les finances publiques et sur la dette. Donc, un demi-tour assez rapide qui me paraît sain, au moins sur les paroles, et après on verra les autres.
Elle n'a pas dit qu'elle allait baisser les taux, Christian.
Non, elle n'est pas là, il ne faut quand même pas exagérer. Non, par contre, il y a un point important que moi-même j'ai sous-estimé, c'est pourquoi ils l'ont monté finalement de 25 points de base. Parce que franchement, la situation, on savait que ça pouvait se retourner très vite, que l'effet énergétique était assez ponctuel. Hein. Ce qui les a vraiment fait réagir, a priori, c'est le fait qu'on a eu une inflation dans les services qui a nettement accéléré sur le dernier chiffre, hein, puisqu'on est passé sur un an de 3% d'inflation des services à 3,5%. Et donc, a priori, ils ont craint qu'il y ait eu vraiment un effet de second tour et finalement que le choc inflationniste. Alors ça, par contre, on commence à l'avoir maintenant avec les prix à production. C'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole se sont décalés et se sont répercutés dans l'ensemble de la chaîne de production assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Ça s'est diffusé beaucoup plus rapidement. Et donc, quand ils ont vu l'accélération des prix dans les services, ils ont vraiment cru qu'il y avait un risque de réaccélération des prix et d'un effet second tour. Donc, l'effet nouveau que nous a dit Mme Lagarde hier, c'est qu'a priori, le consensus au sein de la BCE est en train de rebasculer dans l'autre sens en disant on a peut-être surestimé cet effet de second tour parce qu'entre-temps, on a eu d'autres statistiques, notamment les statistiques sur les salaires qui montrent qu'il n'y a pas du tout d'accélération des salaires, qu'on n'est pas du tout sur ce phénomène-là. Et donc, on va falloir suivre une seule chose maintenant pour la BCE, l'évolution des prix dans les services. Est-ce que ça ralentit? Est-ce que c'était peut-être même un petit biais statistique et puis on a peut-être surréagi? Mais je pense que ça, c'est l'élément clé qui explique peut-être cette réaction. Maintenant, elle ne va pas échapper aux critiques. Pourquoi avoir fait 25 points de base? C'était trop tôt, c'était trop fort, il n'y avait rien qui le justifiait fondamentalement. Même si elle nous a dit que ce n'était pas une assurance, sur le fond, elle a quand même du mal à justifier cette hausse de 25 points de base aujourd'hui.
Autre dossier de la journée, Étienne Brack, SpaceX.
SpaceX qui a perdu 16% hier, troisième séance consécutive dans le rouge. Souvenez-vous, le titre avait gagné 50% sur ses trois premières séances par rapport au fameux $135. Hein, c'est le prix auquel est rentré SpaceX en bourse. Bon, désormais, on n'est plus qu'à 14%. Alors bon, c'est pas si mal au bout de six séances, mais l'euphorie s'est quand même largement calmée autour de SpaceX. Hier, l'élément déclencheur, c'est le fait qu'ils vont faire appel au marché obligataire pour lever 20 milliards de dollars.
Ah non, c'est quoi votre regard sur SpaceX?
Alors, c'est une histoire, j'adore. Hein, le rêve
Mars.
De l'espace et tout, c'est vraiment génial. Alors après, on revient sur Terre et il y a deux éléments. Il y a effectivement des besoins financiers qui vont être colossaux, donc c'est un fait. Et puis il y a un phénomène aussi technique, c'est le mur de gens qui vont commencer à vendre leurs titres dans les mois qui viennent. Donc tout le monde a pris conscience, enfin tout le monde, les grands investisseurs ont pris conscience de ce phénomène-là. Il y a eu un engorgement au départ, parce qu'il y avait 5% du capital qui était offert sur le marché. Et puis là, au fur et à mesure, les gens se rendent compte que du papier, il y en aura. C'est pas la peine de se précipiter. Et moi, j'interprète ça, SpaceX, comme ce qui va se passer sur Anthropic ou OpenAI, c'est on est sur le private equity côté, c'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs américains regardent ça sur un horizon très très long. Ils ont gagné énormément d'argent avec des introductions en bourse, avec des paris sur Nvidia, des paris sur Palantir, des paris sur des boîtes comme ça qui ont été, en fait, pas rentable pendant un moment, et puis finalement la rentabilité arrive. Quand la rentabilité est là, ça devient un prix normal, et c'est un pari tant que le prix normal n'est pas atteint. Et donc ils vont faire ce pari encore quelques temps sur SpaceX. Moi je pense que
c'est quoi le prix normal?
Le prix normal, je pense qu'on va revenir sur SpaceX aux alentours de $100. Je pense que ça va être un peu au mois de septembre, on devrait être à peu près sur ces niveaux-là. Ça restera quand même encore cher par rapport à des critères classiques. C'est-à-dire que si vous interrogez 200 analystes financiers classiques, aucun ne va vous dire que c'est un prix raisonnable.
Par rapport aux ventes, ça reste...
Ça restera quand même un pari, mais encore une fois, les investisseurs ont gagné tellement d'argent avec des paris de ce type-là dans le passé qu'ils peuvent prendre des positions. Alors encore, faut pas dépasser des poids du style 3-4% sur une valeur comme ça, mais c'est un pari, c'est vous parier sur Musk et sa capacité à atteindre ses objectifs.
Surtout que la plupart des banques ne peuvent pas donner d'objectifs de cours parce qu'elles ont vendu du SpaceX lors de l'introduction en bourse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conflits d'intérêts qui sont énormes.
Oui, vendus en banquier d'affaires, quoi.
Oui.
Ouais. Christian.
Oui, alors après, plus globalement, je pense que le marché commence à prendre en compte que le secteur de l'intelligence artificielle est très dépendant, de plus en plus dépendant de l'argent facile. Et donc, si on commence à parler d'une banque centrale américaine qui est peut-être pas si colombe que ça, qui va peut-être remonter les taux, qu'on va voir, qu'on voit les taux longs américains passer à 4,50, ça marque les esprits, on voit que Elon Musk en a profité à plein, il a levé de l'argent, il fait une émission obligataire, donc véritablement, il a un accès à un coût du capital particulièrement faible, donc lui, pour lui, c'est open, il en a profité à fond, mais on voit que derrière, d'autres veulent en profiter, mais on commence à se dire que si on va vers une économie avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ça va quand même devenir très compliqué, cette thématique de l'IA. C'est pas qu'elle est fausse, je parle pas de l'aspect, mais aujourd'hui,
il y a besoin d'argent facile.
Tout a été boosté par l'argent facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez pas le vrai prix de votre intelligence artificielle, très clairement, parce qu'on n'amortit pas les processeurs, on voit qu'il y a une inflation. Je vais juste vous donner une statistique qui est assez impressionnante. La Corée du Sud nous donne dans les statistiques à l'exportation les exportations en valeur et en volume. Et donc, les exportations dans les semi-conducteurs en valeur sont en forte croissance, à deux chiffres, en volume, c'est en baisse. Ça veut dire que c'est que de l'inflation aujourd'hui dans les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud. Pourquoi c'est que de l'inflation? Parce qu'aujourd'hui, on a naturellement ces semi-conducteurs qui sont très demandés. Ça crée une très forte hausse de prix, mais les gens qui achètent les semi-conducteurs, oui, c'est les Microsoft, c'est les Meta, c'est les SpaceX, parce que SpaceX, c'est sa partie, sa division intelligence artificielle. Ils sont en train d'acheter hors de prix ces semi-conducteurs. Donc derrière, le retour sur investissement est quand même particulièrement incertain. Donc si je vous mets un coût de financement élevé, une inflation dans le coût des data centers, et que derrière, on aura peut-être un retour sur investissement, c'est peut-être une révolution, mais que derrière, finalement, ça sera très difficile de rentabiliser tout ça, ça crée un risque, et on est en train de pricer peut-être beaucoup plus de risques autour de l'IA, et c'est en train de monter aussi, peut-être, tout doucement sur les marchés aussi.
Alain, il nous reste 50 secondes.
Alors, 50 secondes pour dire que MSCI et ses analystes ESG ont noté SpaceX hier,
ouais,
et triple C, c'est-à-dire que c'est la plus mauvaise note possible.
C'est comme la Russie, non, c'est
voilà,
ça?
C'est à peu près comme la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine, donc ça situe un peu le niveau. Pour deux raisons, la première c'est la gouvernance, bon là il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour voir que quand vous détenez 80...
C'est lui qui décide tout.
Il décide de tout, donc il y a vraiment un sujet d'homme clé, bon voilà, c'est classique. Et puis l'autre point c'est les controverses, c'est-à-dire que rien n'est prévu chez SpaceX pour gérer les éventuels problèmes autour de l'aspect extra-financier. Donc, ce à quoi Musk va répondre fatalement, c'est que, comme lui, il s'en fout complètement des problématiques de ESG, il va pas mettre un dispositif en place pour régler des problèmes qui, pour lui, n'existent pas. Donc, en attendant, c'est quand même un sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont investis dans des fonds de ce type-là, de type ESG, qui ne peuvent, du coup, pas vraiment investir dans le fond, dans la valeur.
Merci beaucoup à tous les deux de venir ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, Good Morning Market sur BFM Business avec Étienne Barak. Je vous dis à demain. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour la deuxième partie de Good Morning Market. Dans un instant, il sera 9h. Le CAC 40 est en baisse de 0,8% en pré-ouverture, avec quelques prises de profit marquées ce matin quand même. Du côté de la tech en Asie, le Kospi a clôturé sur une baisse de près de 10%, avec SK Hynix qui a lâché 13% après avoir gagné 40% en l'espace de 8 séances. Samsung n'était pas en reste là aussi. Le titre a perdu quasiment 10%. C'est vrai que hier soir, du côté de Wall Street, vous avez eu Alphabet qui a quand même lâché 5%, avec l'un des spécialistes de DeepMind, hein, qui est l'intelligence artificielle notamment de Google, qui s'en va du côté d'Anthropic. Ça a été prétexte à quelques ventes sur ce dossier Alphabet. Puis bien sûr, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est les résultats de Micron. Ça sera demain soir après la clôture des marchés. Le titre a quand même fait x9 en l'espace d'un an. Et le consensus attend une progression du résultat net de 70%, pas par rapport à l'année dernière, mais par rapport au trimestre passé. Donc dans ce contexte, beaucoup d'attentisme sur les marchés. Nous parlerons bien sûr de tout cela dans un instant dans Good Morning Market. Il sera question de l'Asie avec Patrick Zweifel qui nous rejoindra en plateau, le chef économiste de Pictet Asset Management, pour nous dire que du côté de la Chine, on a peut-être trouvé un point bas sur le secteur immobilier. En tout cas, la croissance dans le secteur des services se reprend. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la Chine. Et puis, en dernière partie d'émission, Paul Marcel, le cofondateur de l'atelier des deux options, nous livrera sa lecture d'un point de vue technique sur le CAC 40, qui a bien du mal à tenir la barre des 8400 points. Cette barre symbolique devrait être perdue dans les quelques secondes à suivre à l'occasion de l'ouverture des marchés européens. En attendant, il est 9h et c'est toute l'information économique du jour avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et la canicule se poursuit et elle pousse EDF à annoncer ce matin la mise à l'arrêt de sa centrale nucléaire de Golfech dans le Tarn et Garonne pour contrainte environnementale, anticipant en fait une montée de la température du fleuve au-delà de la limite qui lui permet de s'en servir pour refroidir les réacteurs. Reste que l'approvisionnement est assuré. Par ailleurs, aucune vigilance particulière à avoir pendant cette période, assure RTE, qui rappelle que la France produit toujours plus qu'elle ne consomme malgré le boom de la climatisation exemplaire, avec les capacités solaires qui ont produit 30% de plus qu'une journée d'été classique selon le gestionnaire du réseau. Mais pour autant, cette chaleur n'a rien de bon pour l'économie française, rappelle Patrick Martin ce matin, le président du MEDEF sur RMC.
La France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et dans, au cas par cas, moins de travail. On a eu quelques pics de chaleur l'année dernière. Mmh. L'INSEE n'avait pas su mesurer si ça avait un impact direct sur l'activité. Mais par exemple, les assureurs ont chiffré que dans les 5 prochaines années, les dérèglements climatiques pourraient coûter jusqu'à 450 milliards d'euros à la France. Donc il faut s'y préparer et il faut se protéger.
9h01 et l'Iran réaffirme ce matin qu'il compte garder la main sur le détroit d'Hormuz. Le contrôle restera iranien, a redit le négociateur en chef qui promet tout de même de respecter les règles internationales. Écoutez-le, plus globalement positif à son retour de Suisse où il a négocié avec les Américains.
À mon sens, ce voyage a donné lieu à des résultats positifs, notamment en ce qui concerne les discussions sur le détroit, celles sur le Liban, la question de la dérogation pétrolière et celle du blocage des fonds gelés qui constituent une des mesures que nous mettons actuellement en œuvre. Bien sûr, nous estimons que nous n'en sommes encore qu'au début de ce travail et que nous devons poursuivre nos efforts.
Et en attendant, dans le détroit d'Hormuz, le trafic redécolle. Petit à petit, au moins 26 navires de matières premières sont passés hier, selon Kepler, qui a arrêté son décompte en fin d'après-midi. Ce qui laisse penser que le record de samedi avec 38 navires pourrait être battu une fois les chiffres d'hier consolidés.
Merci beaucoup Léo Dumas. Dans quelques instants, Louis de Fiels nous partagera ses pépites de Gay-Lussac Gestion. Juste avant, un petit mot des experts que l'on retrouve à partir de 9h30 autour de Raphaël Legendre.
Oui Étienne, on va parler décrochage français. Vous savez, c'est la publication du carte sur table du MEDEF avec énormément d'informations économiques passionnantes. On va voir si on peut éviter ce décrochage. On va voir si la proposition du MEDEF d'une baisse de cotisation de 30 milliards pour augmenter le salaire des Français est une bonne idée ou pas. On reviendra aussi sur les 10 ans du Brexit, bien sûr, c'est aujourd'hui. La Grande-Bretagne a-t-elle repris le contrôle? C'était la promesse du Brexit, ou alors perdu le Nord? Évidemment, après le départ de Keir Starmer, annoncé la démission de Keir Starmer de 10 Downing Street, on reviendra sur le fond, sur le rapport sur les fonds vautours d'Aurélie Trouvé, vous savez, à l'Assemblée nationale, la députée LFI, pour voir s'il faut protéger les entreprises de ces fonds qui parfois sont leurs sauveurs. Et puis enfin, on reviendra évidemment sur Alan Greenspan après le décès à 100 ans de l'ancien patron de la Fed. Alan Greenspan, génie des marchés ou père de la crise financière, ce sera le dernier débat des experts ce matin. Rendez-vous à 9h30. À tout à l'heure.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 est dans le rouge. Moins 1% ce matin à l'ouverture. 8314 points. Les marchés qui repassent en risque off. Pas d'éléments déclencheurs. Quelques prises de bénéfices. Ça manque un petit peu de jus pour aller un peu plus loin. En attendant, donc, les résultats de Micron qui seront publiés demain soir à Wall Street après la clôture des marchés financiers. Le marché, dans ce contexte, revient sur les valeurs défensives. C'est flagrant. Sanofi, Eurofins et Carrefour sont les trois plus fortes hausses de l'indice. Alors qu'à l'inverse, on a des prises de profit sur le secteur des semi-conducteurs. Hein, comme ce matin en Asie, ST Microelectronics est de loin la plus forte baisse, moins 5,5%. Le secteur du luxe qui avait déjà passé une sale séance hier est à nouveau dans le rouge. Hermès perd 2,6% à 1577 euros. L'Oréal, de son côté, abandonne un peu plus de 2% à 369 euros. Le baril de pétrole est dans le rouge ce matin avec visiblement un espoir d'accord final qui est toujours intact hein, après les discussions qui ont pu se tenir ces dernières heures entre l'Iran et les États-Unis. Le baril de Brent est à 76 $, 73 $ pour le WTI. C'est une première depuis le début du mois de mars. Enfin, un dernier mot du marché obligataire avec un 10 ans français qui continue de se détendre, moins 2 points de base à 3,58 quand le 10 ans allemand, le Bund, est à 2,93. Là aussi, on s'éloigne un peu plus de cette barre symbolique des 3%. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de Gay-Lussac Gestion, Louis De Fels, qui nous parlera de ces valeurs liées à l'intelligence artificielle. Promis, ce ne sera pas des valeurs américaines, des small et mid-cap en Europe. Vous voyez ça dans un instant, ça se passe notamment du côté de l'Italie. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
Et l'Europe qui est donc dans le rouge ce matin, moins 1% pour l'Eurostock 50, moins 0,86% pour le CAC 40 à 8327 points, quand du côté de la Bourse de Londres, vous avez un repli de 0,8%. Les marchés européens qui ouvrent donc dans le rouge, dans le sillage de l'Asie, donc qui a marqué le pas ce matin. À 9h07, on va vous parler de valeurs avec Louis De Fels qui nous a rejoint en plateau, le directeur général de Gay-Lussac Gestion. Bonjour Louis.
Bonjour Tim.
Alors on va parler de valeurs liées à l'intelligence artificielle, mais on va pas parler des valeurs américaines, les semi que tout le monde connaît. Vous, chez Gay-Lussac Gestion, vous regardez les small et mid-cap, notamment les small et mid-cap européennes, et vous avez trouvé des valeurs liées à l'IA, mais pas des valeurs liées sur les semi-conducteurs. On va laisser les semi de côté.
Exactement, on va parler de ce qu'on appelle des dérivés secondes, parce qu'en effet, depuis 2 ans, il fallait dans les semi-conducteurs, dans les hyperscalers, donc les Google, Facebook, etc., qui ont énormément investi. Je vous rappelle, c'est encore quasiment plus de 700 milliards d'investissements, 782 milliards de capex d'investissement, donc en hausse de 80%. Cette année, les hyperscalers, on parle de plus de 920 milliards l'année prochaine. C'est juste considérable quand c'est rapporté au PIB américain. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, vous n'avez pas besoin de nous pour aller acheter les Micron, les Nvidia. Donc nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les dérivés secondes, donc les valeurs qui vont être liées à l'infrastructure de l'IA. Parce que ces capex, ces investissements, ils vont commencer à arriver, et on le voit. Et c'est là où on a pas mal de petites pépites valeurs européennes, notamment dans ces infrastructures. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les investissements qui ont été faits sont souvent concentrés en Arizona ou au Texas, aux États-Unis, parce que ce qui est très important, c'est pour être raccordé au réseau électrique et pour pouvoir avoir toute l'infrastructure. Mais le problème, c'est des pays où il fait extrêmement chaud et il y a des problèmes hydriques d'eau. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la consommation d'eau pour ces data centers va doubler jusqu'en 2028. Donc il y a une vraie problématique pour que ces data centers puissent être équilibrés, parce qu'aujourd'hui, ils sont refroidis, notamment traditionnellement à base d'air. Et nous, on a trouvé des nouvelles technologies qui s'appellent le data cooling, le ice data cooling, c'est-à-dire le refroidissement par eau. Et bonne nouvelle, on a deux petites pépites du terroir en Europe, notamment donc deux valeurs italiennes. Il y en a plusieurs. Il y a Schneider qui le fait aussi, mais ça, tout le monde connaît. Donc nous, chez Gay-Lussac Gestion, qui sommes sur les small et mid-cap, on aime beaucoup, par exemple, Louvet, qui lui, va être le distributeur de la matière première, on va dire, de la technologie. Vraiment, le hardware, c'est ce qu'on appelle le HVAC dans le terme jargon. Il va aller distribuer les grands équipements. Et donc ça, c'est une valeur qui marche très bien, parce qu'ils ont fait une acquisition aux États-Unis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu un premier contrat en début d'année avec un fameux hyperscaler dont on ne connaît pas l'identité. C'est un premier gros contrat, donc on voit les montagnes de capex, donc le titre a bien monté, Louvet, donc voilà, attention peut-être.
Ça gagne 70% depuis le début de l'année.
Mais voilà, mais c'est vrai que la société qui, à la base, n'était pas du tout pour travailler dans le refroidissement, parce que c'est l'heure des technologies. Mais voilà, aujourd'hui, il s'avère que leur technologie de data cooling va pouvoir permettre de refroidir les data centers. Donc, c'est vraiment la technologie critique en ce moment. Donc, le titre a énormément monté et c'est que sur un contrat pour 2027-2028. Donc, je pense qu'il y en aura énormément d'autres qui vont venir et pourquoi pas sur un deuxième hyperscaler. Donc, voilà, c'est une société italienne familiale qu'on aime beaucoup, qui eux-mêmes sont déjà présents aux États-Unis par des acquisitions. Donc, il n'y a pas de problème de taxes, de droits de douane, etc. Donc, voilà. Donc, ça, il y a Louvet qui fournit l'investissement. Et il y a une note, sa valeur grosse.
Alors, juste pour nos auditeurs, la note, c'est LU-VE. Donc, voilà. C'est coté à Milan. Ça fait 1,5 milliard de capitalisation boursière.
Voilà. Donc, ça a pas mal progressé. C'est vrai que, comme vous venez de dire, ça fait plus de 70%. Mmh. Et sa valeur un peu confrère, qui, elle, s'appelle Carel, qui, elle, va être plus être dans l'intelligence de la gestion du froid. Donc, c'est plus dans le software aussi. Ils ont racheté des sociétés de software pour être dans l'intelligence et pour la gestion du flux du froid. Donc, la première était plus dans l'hardware. Là, c'est plus dans l'intelligence, dans le software. Donc, les deux sont très complémentaires. Voilà. Carel, elle, n'aura pas de contrat direct avec les Perskeller, mais pour être une dernière seconde, c'est pour ça que le titre a moins monté. Donc aujourd'hui, on privilégie ces deux valeurs au sein de Gay-Lussac Gestion.
Carel, c'est un peu plus gros, hein. C'est 3 milliards de capitalisation boursière. Et là aussi, ça se passe du côté de la bourse de Milan. Bon, on ne va pas parler que des valeurs italiennes. Vous connaissez aussi Santia, c'est une belle conviction chez vous dans vos portefeuilles. Là, c'est en Norvège.
Voilà, donc ce qui est important, c'est dans l'infrastructure également, mais là, c'est dans l'infrastructure liée à la construction. C'est dans la construction non cyclique, c'est très important, parce que nous, on aime bien les sociétés où il y a beaucoup de visibilité, des carnets de contrats longs. Et Santia va être dans les bâtiments longs, dans les hôpitaux, dans les environnements complexes. Et la bonne nouvelle de Santia, c'est qu'eux également bénéficient de toute la hype sur l'IA, parce qu'ils ont plus de 10% de leur carnet de commandes qui est lié dans la construction de data centers. Et il faut savoir que le business model de Santia, c'est très asset-light, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capex, hein, ils ont très très peu d'investissement. Donc ce qui est bien, c'est que normalement, c'est des marges où souvent vous faites 4 à 5% de marge quand vous faites des hôpitaux, vous savez, c'est des contrats publics, etc. Dans les data centers, il y a beaucoup de demandes, il faut pouvoir être vendu, les marges sont un peu plus relutives, autour de 6-7%. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour le groupe. Donc vous avez une relution sur les marges. Et la vraie bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des plans d'infrastructure en Norvège. Il y a beaucoup de plans de relance, parce que vous savez que la Norvège a énormément bénéficié de la hausse du pétrole. Ils ont un énorme plan d'investissement. Et voilà, donc nous, c'est une thématique qu'on aime bien jouer chez Gay-Lussac Gestion. C'est toutes ces sociétés, voilà, qui vont bénéficier de ces plans de relance en Norvège.
Santia ASA, qui a également une valeur de rendement, hein. Ça donne un peu plus de 6% de coupons.
Voilà, ça donne des coupons régulièrement. Ça se paye pas très cher. Ça a beaucoup de cash au bilan. Donc c'est complètement asset light. Ça se paye aujourd'hui 6,5 fois l'EBITDA. C'est beaucoup moins cyclique. C'est encore moins cher que leur grand frère qui s'appelle par exemple Bedeck, également en Norvège. Donc voilà, c'est des petites pépites du terroir que l'on aime bien, assez nichées dans cette thématique d'infrastructure IA.
Santia, Carel Industries et donc Louvet. Aujourd'hui, cette thématique IA, ça représente quelle proportion dans vos portefeuilles? Comment vous vous exposez à cette thématique qui a bien performé, devrait encore bien performer, parce que c'est vrai qu'on est sur une tendance de fond, mais bon, vous ne pouvez pas tout mettre là-dessus aujourd'hui.
On ne peut pas tout mettre dessus, mais après, comme vous avez compris, ce n'est pas des valeurs pure player comme Nvidia, ouais, ou Micron qui ont 100% de leur business. Là, c'est certaines valeurs, ça va être 10%, 20%, 30% de leur chiffre d'affaires, mais de temps en temps, c'était parti de zéro. Donc en gros, vous avez un fort rating, parce que souvent, on est au tout début de ces investissements dans ces valeurs-là, parce que vous avez vu qu'il y a eu énormément d'investissements, mais le temps que ça découle et que ça ruisselle vers l'Europe, là, on parlait sur Louvet, c'est le premier contrat, mais il y en aura plein d'autres à venir. Donc toute la beauté de ces investissements, donc aujourd'hui, c'est une partie importante du portefeuille, mais ce n'est pas que des pure players.
Merci beaucoup Louis De Fels de nous avoir accompagnés ce matin. Vous êtes le directeur général de Gay-Lussac Gestion pour nous faire un point sur les small et mid cap et notamment les valeurs liées à l'IA qui ont donc bien performé depuis le début de l'année et qui ont selon vous du potentiel. 9h15 sur BFM Business, on va parler désormais de l'Asie et de l'impact macroéconomique du conflit au Moyen-Orient. Avec Patrick Zweifel qui vient de nous rejoindre en plateau, chef économiste de Pictet Asset Management. Bonjour Patrick.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous ce matin en plateau. Bah, pour faire un petit point d'étape, c'est vrai qu'on l'a vu là, les négociations visiblement se passent plutôt bien entre les délégations américaines et iraniennes, hein, négociations d'ailleurs qui se tiennent en Suisse.
Absolument.
Oui, Pictet. Le marché en tout cas y croit, on l'a vu sur la partie actions, hein, l'ensemble des indices sont sur des plus hauts historiques ou presque. Le pétrole est à 76 dollars. Bon, néanmoins, il y aura quelques quelques séquelles à court terme, notamment pour certains pays en Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Mais quand vous regardez ce qui se passe en Chine, par exemple, bon, pas de récession en vue, hein, d'un point de vue général, oui. Loin de là.
Non, non, alors absolument, je crois que bon, il y a plusieurs tendances à distinguer. Enfin, si on commence par la Chine, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu une transmission classique, effectivement, du choc pétrolier avec une inflation qui a remonté. L'inflation en Chine, on sait qu'elle était, elle était plutôt en déflation, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a eu effectivement un impact négatif sur la croissance des ventes de détail, de la consommation, etc. Donc ça, c'est l'élément classique. En revanche, ce qui tire toujours la Chine, c'est plutôt évidemment les exportations qui bénéficient aux manufacturiers qui continuent d'investir. Et ça, ça correspond à une demande accrue pour les principaux partenaires commerciaux de la Chine. Donc ça bénéficie effectivement à ses voisins, ça bénéficie au reste de l'Asie et l'Asie du Sud-Est que vous mentionnez, qui a été effectivement les plus grandes victimes. Donc si on prend les traditionnels pays exposés au choc pétrolier, c'est la Thaïlande, c'est les Philippines, qui ont bien souffert de cette hausse du prix du pétrole. Et puis autrement, on a aussi l'Asie du Nord, qui en général souffre beaucoup, comme la Corée, Taïwan, mais qui là ont extrêmement bien résisté. Et ils ont bien résisté parce qu'on a des tendances de fond qui sont liées aux investissements dans l'IA, qui sont liées aux investissements dans le renouvelable, qui sont liées à plein d'investissements qui sont faits à travers le monde dans des infrastructures et autres. Et là, ça a changé complètement la donne, je dirais.
C'est vrai que l'intelligence artificielle en bourse, ça trompe un petit peu la vision, hein, notamment sur les indices boursiers. On l'a notamment vu avec le Kospi, qui d'ailleurs a perdu 10% ce matin. Mais d'un point de vue macroéconomique également, ça change la donne. Quand vous regardez des exportations où vous avez des inflations à 2 voire 3 chiffres sur certains composants électroniques, bah oui, c'est un impact macroéconomique.
Oui, alors absolument. Ça veut dire que ce qui se passe traditionnellement quand on a un choc du pétrole, c'est les économistes vont vous dire on a une détérioration des termes de l'échange. Ça veut dire que les prix à l'importation montent fortement alors que les prix à l'exportation n'ont pas de raison de bouger. Mais il se trouve que dans ce cycle-là, on se retrouve dans le cas de la Corée avec des prix des semi-conducteurs qui font bien mieux effectivement que la hausse du prix du pétrole. Ouais. Donc on a le rapport des prix à l'exportation sur les prix à l'importation qui sont en hausse de plus de 17%. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une détérioration de la balance commerciale en Corée, par exemple, comme on a eu moins 2,5 pendant la guerre en Ukraine, cette fois, on a plus 5. Donc on a effectivement un changement complet. Et donc, ce qui soutient effectivement le marché coréen. Enfin, en tout cas, l'a soutenu. Parce qu'initialement, on a eu une baisse d'à peu près 20% au moment du choc. Mais il a rebondi de 66. Alors évidemment, c'est très volatile puisqu'il retombe là de 10. Mais globalement, effectivement, les fondamentaux coréens sont pas les fondamentaux classique d'une crise pétrolière.
Justement, une fois qu'on enlève tous ces vecteurs liés à l'intelligence artificielle, comment ça va aujourd'hui, cette économie, notamment du côté de la Corée, du côté de la Chine? On aura peut-être l'occasion dans un instant de parler de l'Inde, mais une fois qu'on gomme un peu ces effets liés à l'intelligence artificielle.
Mais je crois qu'il y a... Alors, l'intelligence artificielle, c'est évidemment le thème que tout le monde couvre, que tout le monde connaît, et on voit effectivement qui tire les marchés boursiers. J'ai l'impression qu'il y a d'autres thèmes qui sont venus quelque part en soutien de ces pays d'Asie, mais plus globalement les émergents. Je crois que le deuxième, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une demande pour le renouvelable, même si elle se fait plus véritablement de la part des États-Unis, mais du reste du monde, de la Chine en particulier, de l'Europe aussi. Et donc ça accroît la demande de plein effectivement de matières premières qui sont utiles au processus de création d'énergie renouvelable. Et on peut penser à l'uranium qui bénéficie au Kazakhstan, on peut penser au lithium, au nickel, au cuivre qui vont bénéficier à des pays comme évidemment le Pérou, le Chili, en Argentine, la Zambie, la Mongolie et l'Indonésie qui va produire un certain nombre de ces produits-là. Donc on a globalement le prix des indices des métaux industriels a fait plus de 40%. Donc, à quelque part, largement compenser effectivement cette hausse du prix du pétrole pour beaucoup de ces pays. Donc, je crois que c'est une lecture qui est complètement différente des crises passées.
Patrick Zweifel, vous êtes chef économiste de Pictet Asset Management. La semaine dernière, on a eu les ventes au détail en Chine. Elles se sont contractées au mois de mai. C'était la première fois depuis 2022. Ça montre quand même qu'on a une économie chinoise qui est toujours en difficulté quand même. Les ventes au détail, c'est un élément important de la constitution du PIB avec, bien sûr, l'immobilier. On en reparlera dans un instant.
Oui, alors absolument. Donc, si on prend... Alors, les ventes de détail, c'est une des séries de un des indicateurs économiques chinois qui est très suivi, publié tous les mois. Oui. Comme vous l'avez dit, il est en contraction. Maintenant, ce qu'on a observé en Chine depuis le Covid, en fait, c'est un changement assez drastique de la manière de consommer des Chinois. Ça veut dire qu'on est passé d'une consommation très forte en biens assez classiques vers une consommation beaucoup plus forte de services. Donc de transport, de tourisme, de loisirs, etc. Ça fait que si on prend la composante globale de consommation chinoise, qui inclut les services, mais qui est publiée qu'une fois tous les trois mois, ben là, la consommation chinoise résiste beaucoup mieux. Ça veut dire qu'on est quasi au niveau de la croissance du PIB, on est entre 4,5 et 5. Donc pas assez pour que la conso prenne plus de place dans le PIB, ce que les Chinois souhaiteraient. Mais on n'est pas dans la situation aussi catastrophique que montre l'évolution des ventes de détail.
Et ça colle, par exemple, avec hier un broker qui a revu à la baisse son objectif de cours sur Hermès, hein, d'ailleurs, qui a perdu 5%, on est encore à moins 2 ce matin, en se disant bah, la consommation en Chine, c'est pas ça, notamment dans le secteur du luxe. Par contre, ce que vous nous dites, c'est que, par exemple, sur les voyages, ça tient plutôt bien.
C'est ça, exactement. Ça veut dire que c'est...
Donc il y a des tendances de consommation quand même qui changent depuis la pandémie.
Oui, oui, absolument. Donc ça veut dire que effectivement, ils vont bouger beaucoup plus. Ils bougent beaucoup plus déjà en Chine.
Ouais.
Bon, ils bougent aussi beaucoup plus, évidemment, dans le reste de l'Asie. Donc, la Thaïlande reste...
Et moins en Europe, par exemple. Hein. Ça,
moins
c'est
en Europe,
grand.
Effectivement. Ouais. Mais bon, avec le renforcement du yuan qu'on a vu récemment, on sent qu'effectivement, les Chinois commencent à aller plus loin aussi. Et oui, je pense que c'est un changement structurel de fond, à savoir qu'on a toujours dit que l'économie chinoise devait être moins industrielle, moins orientée exportation et plus orientée service. Et j'ai l'impression que ça, c'est une tendance qui se met en place.
Comment, avec vos collègues en charge de l'allocation d'actifs, hein, puisque vous êtes chef économiste, bah vous arrivez à conjuguer un petit peu tout ça, bah, pour mettre votre expertise au service un petit peu des clients? Comment on arrive à jongler la macro et puis l'allocation?
Oui, alors ce qu'un économiste peut apporter effectivement à l'allocation d'actifs, c'est véritablement, parce qu'on nous montre à un économiste très simple, c'est d'avoir des vues sur l'activité et l'inflation. Et puis, en fonction de où on se trouve avec ce couple, eh bien, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance en tant qu'économiste à vouloir allouer là où l'activité rebondit et l'inflation est faible ou décline. Et donc là, l'univers pour nous qui est le plus évident à allouer, c'est celui des émergents. Parce qu'on se retrouve toujours avec une croissance au-dessus d'une norme, qui est largement résiliente pour les motifs que j'ai expliqués auparavant, et une inflation qui était en dessous de la cible de manière générale et qui est largement amoindrie par plusieurs effets de ces tendances structurelles que je mentionnais auparavant. Donc pour nous, l'allocation, en tant qu'économiste global, là où elle doit être effectivement largement surpondérée, ça reste les émergents, et c'est là où sont positionnés nos actifs nos gérants multi-actifs. Mais autant que ce soit actions ou obligations, effectivement.
Et en termes sectoriels,
en termes sectoriels, c'est vrai,
il n'y a pas que l'IA.
Voilà, non, il n'y a pas que l'IA, mais c'est vrai que la tech reste un secteur qui est dominant. Et puis après, ça va dépendre des régions. Ça veut dire qu'effectivement, comme l'Europe, bon, on a des dépenses très claires sur un certain nombre de secteurs, que ce soit justement le renouvelable, que ce soit la défense, etc. Donc là, c'est typiquement des secteurs qu'on va favoriser au sein, effectivement, d'une allocation européenne.
Un petit mot quand même de l'Inde, hein, le Nifty déçoit à nouveau, hein, c'est
voilà.
L'indice indien, on est quasiment à moins 9 hein, en devise locale, sans compter que la devise, elle a encore pris des difficultés ces dernières semaines. Vous avez encore du potentiel pour vous en Inde? Comment vous regardez la situation macroéconomique? Parce qu'on n'arrête pas de dire c'est le pays le plus peuplé du monde, il y a des perspectives qui sont superbes, etc.
C'est ça.
Et en termes d'investissement, ça se traduit pas du tout.
Non, alors ben, l'Inde, c'est un peu... Au sein des émergences, ce que j'aime regarder, c'est effectivement la manière dont les économies sont structurellement positionnées. L'Inde fait partie de ces pays qui sont extrêmement diversifiés. Donc, ils sont très manufacturiers, très diversifiés. Donc, en général, ça justifie effectivement des ratios cours-bénéfices qui sont plutôt élevés. Donc, on est plutôt dans l'ordre des 20. Ouais. Par opposition à des pays qui sont très, très concentrés, généralement très exportateurs de matières premières, où ces ratios cours-bénéfices sont plutôt en dessous des 10. Donc, ils bénéficient toujours d'une valorisation forte. Il y a toujours, en plus, ces tendances longues. Je crois que ce dont souffre l'Inde actuellement, c'est effectivement un manque d'exposition à l'IA directement. En revanche, ça reste toujours le pays au monde qui exporte plus de services commerciaux, de services business. C'est près de 15% du commerce mondial, de loin le meilleur. Donc elle a toujours beaucoup d'attraits, mais qui ne sont pas effectivement les attraits sur lesquels les investisseurs se concentrent aujourd'hui.
Merci beaucoup Patrick Zweifel de nous avoir accompagné ce matin, chef économiste de Pictet Asset Management, pour faire un petit tour d'horizon de la situation en Asie d'un point de vue macroéconomique. 9h25, le CAC 40 est donc en baisse ce matin, puisqu'il abandonne 0,87%.
Et c'est Paul Marcel qui est avec nous par téléphone, le cofondateur de l'Atelier des Options. Bonjour Paul, le CAC 40 était à 8400 points hier soir à la clôture, on est donc en dessous, 8327 à l'instant.
Oui, bonjour Étienne. Bah, écoutez, ça bouge un peu plus en ce début de semaine, car il ne s'est pas passé grand-chose la semaine passée. Comme je vous disais mardi dernier, les market makers des options ont pricé un mouvement de plus ou moins 1,1%, et je trouvais cela un peu faible par rapport aux news économiques, notamment avec la décision de la Fed, mais le CAC 40 est resté dans ce range. Alors c'est un mouvement de 2,75% qui est pricé jusqu'à expiration de juillet dans plus de 3 semaines. Bon, je continue de penser que c'est encore un petit peu faible. Maintenant, à noter que sur l'Eurostox, on a un put call ratio qui est très optimiste, avec 0,37, alors ce qui indique que les opérateurs sont très peu couverts, donc une mauvaise nouvelle sur les marchés et les indices européens pourraient corriger rapidement. Maintenant, d'un point de vue graphique, notre CAC 40 a buté plusieurs fois la semaine dernière sur la résistance de 8454 points et hier, il a buté sur le support à 8357. Mais ce matin, on a ouvert en dessous de ce support. Donc, il est possible qu'on continue de baisser jusqu'au comblement du gap à 8250, laissé ouvert le 12 juin. Mais pour l'instant, le CAC 40 est plutôt dans une tendance haussière, donc ce comblement de gap à la baisse lui permettrait éventuellement de prendre appui pour mieux rebondir et aller chercher ensuite le gap à la hausse qui est toujours ouvert depuis 2 mars et qui se situe à 8554 points. Alors s'il n'y avait pas de rebond, mais une poursuite de la baisse, alors le CAC 40 pourrait se réinstaller dans le range qu'il a connu pendant plusieurs semaines entre 8259 et un point bas à 7919.
Moins 0,96%, 8320 points pour le CAC 40. Ça devrait être guère mieux du côté de Wall Street cet après-midi. En préouverture, le Nasdaq cède un peu plus de 2%, moins 1,3% pour le S&P 500. En attendant, bien sûr, Micron qui va publier ses résultats demain soir après la clôture de Wall Street.
Effectivement, les indices US sont déjà en rouge aujourd'hui. Les résultats de Micron, oui, sont très attendus mercredi soir. Donc, rappelons que le prix de l'action a tout de même été multiplié par 4 depuis son ouverture du 2 janvier. Alors, c'est véritablement impressionnant. Il n'y a que 2 valeurs du SP500 qui font mieux. Il s'agit de Western Digital et de l'imbattable SanDisk. Mais attention, car il y a plusieurs ombres au tableau. Alors, d'abord, d'un point de vue cyclique, on peut dire qu'en général, Micron passe assez mal l'été, puisque si on avait acheté Micron tous les 23 juin en clôture et revendu au 15 septembre de chaque année, la performance de réussite ne serait que de 42% sur ces 19 dernières années. Ensuite, au niveau des options, le put call ratio, il est optimiste avec 0,72. Alors, ce n'est pas un niveau d'optimisme exagéré, mais bon, ça, c'est quand même à signaler. Et puis surtout, d'un point de vue graphique, on a une grosse alerte. Alors, en effet, en hebdomadaire, on a une divergence entre les cours qui font des plus hauts historiques et un indicateur technique qu'on appelle le RSI qui ne fait pas de plus haut. Alors, cette divergence est en général un bon signal de pause dans une tendance. Et enfin, en journalier, cette fois-ci, on a un biseau d'épuisement qui s'est formé. Donc, si on casse les 1108 $, on devrait rapidement atteindre les 1012 $, puis les 888 $. Maintenant, si les résultats de Micron sont bien accueillis par le marché, alors l'objectif à la hausse est de 1355 $.
1211 à l'instant pour Micron, c'était le cours de clôture hier soir, plus 6,8%, un titre bien sûr qui a connu un parcours spectaculaire, hein, vous l'avez cité depuis le début de l'année, et en l'espace d'un an ça a quand même été multiplié par 9. Merci beaucoup Paul Marcel de nous avoir accompagné ce matin, cofondateur de l'Atelier des Options, pour dresser un point d'un point de vue technique sur le CAC 40 qui perd donc 1% et sur Micron. Dans un instant vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre, la séance a su bien sûr tout pour investir avec Antoine Larigauderi à 11h et puis l'ouverture de Wall Street avec donc Guillaume Sommerer et des futurs américains qui sont donc nettement dans le rouge, notamment pour le segment technologique avec un indice Nasdaq qui cède un peu plus de 2% dans le sillage du Kospi ce matin du côté de Séoul qui a perdu 10%. Pas de grande nouvelle qui a déclenché tout cela, juste quelques prises de bénéfices après quand même un parcours qui a été spectaculaire sur l'ensemble du segment. Très bonne journée, à demain 9h.
Good Morning Market sur BFM Business.